Bonjour, aujourd'hui, une histoire du blues.
Ils n'étaient que trois dans l'orchestre, avec une guitare cabossée, une mandoline et une vieille basse. Ils attaquèrent un de ces morceaux qui semblent ne pas avoir de fin. Ce n'était pas réellement ennuyeux ou déplaisant, obsédant conviendrait mieux. William Christopher Handy.
D'histoire. Personne ne saura jamais qui a inventé le blues. Il est né il y a un peu plus d'un siècle, quelque part dans le sud des États-Unis, et il y serait resté si en 1903, un musicien de Broadway ne s'était trouvé par hasard sur le quai d'une gare du Mississippi. Il s'appelait William Christopher Handy. Et en attendant un train qui n'arrivait pas, il vit un noir qui chantait en s'accompagnant d'une guitare. Ému par cette musique qu'il ne connaissait pas, Handy nota les mélodies et les rythmes qu'il entendait, et revenu à New York, il composa les premiers morceaux de ce qui allait s'appeler le blues. Pourquoi le blues? Peut-être parce qu'il exprimait toute la détresse de ces anciens esclaves noirs qui, dans les plantations et les prisons du sud des États-Unis, se donnaient du courage en chantant ce qu'on appelait alors des work songs, les premières paroles d'une musique qui allait conquérir le monde. Sébastien Danchin, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait du film Oh Brother, un des noirs qui chante un work song, ces chants de travail qui sont à l'origine du blues. Vous le rappelez dans une histoire du blues qui a été publiée aux éditions du Layeur. Alors le blues n'est pas une musique comme les autres ou parmi d'autres. Elle occupe une place considérable dans l'histoire de la musique. Au fond, c'est du blues, entre autres, qu'est né le jazz.
Oui, le blues, je crois, est à l'origine du jazz, bien évidemment, puisque c'est la racine de la musique afro-américaine. Mais elle est aussi, par accro, l'origine du rhythm and blues, du rock and roll, et donc, à travers le rock and roll, du rock et de toute la musique populaire occidentale à l'heure actuelle. Donc, quand on entend Céline Dion aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même un héritage direct de ça, et même très direct.
Et qui vient donc du Mississippi. Alors, c'est une musique qui porte le nom d'une couleur. Pourquoi le blues?
Alors, pourquoi le blues? Ça vient d'une expression anglaise. Il y a une expression qui... Avoir les diables bleu, to have the blue devil, c'était une notion de peur, d'angoisse, de crainte, et donc to have the blues, c'était une simplification, c'est une existence avérée dans la langue anglaise avant même l'existence de cette musique, et donc il se trouve que c'est l'expression qui a été retenue par la suite par les afro-américains qui ont popularisé cette musique pour cette telle expression, comme on peut dire chez nous, j'en ai ras-le-bol quand on dit qu'on en a assez. Bon, si ça avait fait naître un style de musique, il y aurait peut-être le ras-le-bol.
On dit aussi que ça vient de la note bleue.
Alors la note bleue, c'est autre chose. Oui. Non, la note bleue, c'est une note qu'on lui donne ce nom de bleu par rapport à la gamme du blues, puisque la gamme du blues s'inscrit sur une gamme non pas dodécaphonique, c'est-à-dire à douze éléments. C'est la gamme du piano, si vous voulez, mais elle s'inscrit dans une gamme à cinq éléments, qui est une gamme qu'on trouve dans énormément de cultures, en particulier en Afrique, mais aussi chez les Celtes.
Alors cette musique apparaît, on ne sait pas très bien exactement à quel moment, parce que elle n'est chantée que dans les deltas du Mississippi, mais alors elle apparaît après l'abolition de l'esclavage. C'est pas une musique d'esclave. Alors qu'est-ce qui explique le blues, justement, des premiers chanteurs de blues?
Le premier chanteur de blues, d'abord, je crois qu'il y a deux choses à dire par rapport à ça. D'une part, le blues n'est pas forcément une musique triste, c'est un exorcisme. exorcisme. C'est au contraire pour exorciser la difficulté des temps, la difficulté d'un quotidien. Et donc, c'est une catharsis. C'est une soupape de sécurité. C'est une manière au contraire de s'amuser d'une situation dramatique. Les gens qui ont survécu à la vie dans les camps vous diront que il y avait énormément d'humour en réalité et qui pouvait circuler sous forme de blagues parfois fort cyniques et fort terribles, mais c'est à peu près de la même logique. Et puis l'autre élément, effectivement, c'est de dire que cette musique s'est développée après l'esclavage, mais parce que l'esclavage n'avait pas cessé dans le Sud. Il avait pris un autre nom, c'était le métayage qui avait remplacé, mais la ségrégation et les systèmes qui ont été mis en place à partir de la fin du 19e siècle n'étaient pas vraiment meilleurs que ceux qui prévalaient auparavant.
Alors si on ne sait pas très bien ni qui ni quand a été inventé le blues, on sait en revanche donc où et pourquoi il est né. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
D'où vient le blues, hein? Cette question, les bluesmen répondent souvent, comme James Butch Cage, qu'il remonte au temps de l'esclavage, une origine un peu mythique peut-être, mais quand même très ancrée dans les esprits. Alors, James Butch Cage raconte par exemple comment une chanson pouvait alors naître de cette souffrance. Quand on était au temps des esclaves, dit-il, nous les gens de couleur, on n'avait rien à manger. Juste les os, la peau et les mâchoires du cochon, tandis que les blancs, eux, se tapaient toute la bonne viande. Les temps étaient difficiles et les noirs en ont fait une chanson, par exemple. Et ma mère me l'a apprise, elle n'était pas esclave, mais ma grand-mère, oui, et elle la chantait souvent. Un autre bluesman, Booker White, s'était fait raconter par une vieille dame des histoires sur le temps des esclaves. Lorsqu'ils travaillaient au champ, disait-elle, les hommes et les femmes chantaient des airs si pitoyables et pendant si longtemps qu'ils finissaient par pleurer. Mais, ajoute-t-elle, quand le patron arrivait, il faisait comme s'ils avaient attrapé un moustique dans l'œil. Parce que le patron ne voulait pas les voir comme ça, tristes. Il devait avoir l'air de prendre les choses du bon côté. Mais d'autres influences ont forgé le blues, en particulier les spirituals, ces chants religieux très populaires au 19e siècle. Dans les quartiers noirs, raconte un témoin blanc, donc au 19e, les gens de couleur se groupent et chantent ensemble pendant des heures, des promesses, des prières, amplifiées par de longues répétitions en chœur. À chaque mot, ils penchent alternativement le corps sur l'une ou l'autre jambe, ou marquent la cadence en se frappant les cuisses. Comment, se demande donc ce témoin blanc, comment peut-on tolérer une aussi vulgaire perversion de la vraie religion ? Autre influence importante, celle des chants de travail, donc dans les campagnes, notamment ce qu'on appelle le « field holler ». Une nuit en Caroline du Sud, un promeneur est surpris par un de ces cris étranges. Quelqu'un, dit-il, lança un son tel que je n'en avais jamais entendu auparavant. Un grand, long cri musical qui s'éleva en se cassant dans les aigus. La voix retentissait dans l'air glacial de la nuit comme un appel de clairon. Puis, la mélodie fut reprise par quelqu'un d'autre, puis un autre encore, et par plusieurs en chœur ensuite. Un howling wolf, ça veut dire loup hurlant en anglais, une star du blues des années 50-60 qui a beaucoup influencé, je crois, les Rolling Stones. Et elle se souvient de son enfance dans les campagnes du Mississippi. « On faisait plein de musique dans le coin, dit-il, des chants de travail. Les types chantaient comme ça venait pendant qu'ils travaillaient. Des chants pour le labour ou pour appeler la mule. Ils composaient ces chansons selon ce qu'ils sentaient. » En Booker White, qui a grandi aussi dans le Mississippi, se souvient avoir entendu des vieux qui chantaient ceci quand ils avaient fini de traire leurs vaches. « Maintenant, je suis content de voir venir le soir et le soleil se coucher. Comme ça, je vais pouvoir rentrer à la maison et me reposer. »
Alors le berceau du blues, on vient de l'entendre, Sébastien Danchin, c'est le Mississippi. En fait, il serait resté dans le delta du Mississippi si ce certain William Christopher Handy n'avait pas entendu le blues et ne l'avait pas ramené à New York. C'est à ce moment-là qu'il est devenu, dit-on, c'est à ce moment-là qu'il est devenu populaire dans l'ensemble des États-Unis.
Oui, je crois que ça s'est fait un petit peu différemment. D'abord, le berceau du blues, c'est très probablement la région du delta, mais il se trouve qu'il y avait également des choses extrêmement similaires qui se développaient du côté oriental, du côté est du Texas. Donc ça veut dire qu'il y avait, en réalité, il y a plusieurs berceaux très probablement à peu près à la
même période. Et le rôle de Handy là-dedans?
Alors le rôle de Handy, c'est qu'effectivement il se trouve sur un quai de gare, il entend un type qui chante une mélopée, il a jamais entendu ça, lui il trouve ça extraordinaire, il va figer le blues puisqu'il le transcrit sur une partition, il va le figer, il va lui donner ses 12 mesures, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que le blues a 12 mesures, parce que ça a été une façon pour lui de quantifier cette musique et après d'écrire, de la mettre sur partition, et à l'époque des petits formats, ça s'est très bien vendu, et des premiers disques ensuite, ça s'est extrêmement bien vendu, et c'est comme ça que le blues a acquis une audience bien au-delà de son lieu de naissance.
En tout cas, c'est Handy hein, qui est l'auteur de ce qui est sans doute le plus célèbre morceau de blues, le St. Louis Blues, chanté en 1925 par la non moins célèbre Bessie Smith, accompagnée ici par un trompettiste encore à peine connu, Louis Armstrong, un des enregistrements les plus anciens de l'histoire du blues. C'était Bessie Smith, hein, qu'on appelait l'impératrice du blues, Sébastien Danchin. Alors, ce qui a permis au blues aussi d'être connu ailleurs que dans le sud des États-Unis, c'est pas seulement Bessie Smith, c'est aussi le disque.
Bah, c'est avant tout
là,
le disque.
Là, on vient d'entendre un livre de 1925.
C'est avant tout le disque. Le disque, jusque dans les années 20, c'est un support qui est réservé à une élite, donc on entend surtout de la musique classique, de l'opéra, de l'opérette. Et puis, il y a quand même un engouement, assez paternaliste de la part de toute l'Amérique blanche pour ce que sont les vieux chants des plantations. On a une idée quand même qui est très oncle Tom de la musique noire, et donc on s'intéresse à ça. Et puis d'un seul coup apparaissent à partir de 1920 les premiers enregistrements de blues, et on s'aperçoit que cette musique beaucoup plus authentique d'abord est capable de toucher un grand public, et que surtout elle est capable de toucher son public d'origine, c'est-à-dire le public noir, dont on n'imaginait pas qu'il avait la capacité économique d'acheter des disques. Et à partir de ce moment-là, il y a une véritable explosion de toute cette industrie du disque afro-américaine, qui s'adresse avec Bessie Smith à toute l'Amérique en général, et même au reste du monde, mais qui s'intéresse aussi au public noir qui achète ces disques.
Des disques et des gramophones qui n'étaient pas très chers non plus, vous dites
non,
15
ça,
dollars. Donc
oui, ça veut dire que ça reste beaucoup plus, ça reste accessible, surtout qu'on remarque une chose au sein de la communauté noire, ça, les sociologues l'ont remarqué, c'est qu'on est prêt, si vous voulez, à revenu égal dans deux familles, la famille noire dépensera plus pour la musique que la famille blanche. Ça, c'est une réalité qui est centenaire.
À ceci près qu'il a fallu attendre longtemps pour que les noirs puissent enregistrer dans les studios, justement.
Pour qu'ils aient interdit. Le premier disque de jazz qui date de 1917, c'est l'original Dixieland Jazz Band, qui était un orchestre blanc, effectivement. Donc, il faut attendre les années 20.
Hello. Who's the honcho around here?
Qui est le patron ici? C'est moi.
We hear that you pay good money to sing into a can.
Il paraît que vous payez bien ceux qui chantent dans une boîte.
Negro songs?
Ça dépend, vous chantez des trucs de nègres?
Well, sir, we are Negroes.
Eh bien, nous sommes des nègres.
Well, I don't call Negroes out.
J'enregistre pas des trucs de nègres.
I went to the club room. Fell down on my knees. I went to the club room.
France Inter, 2 000 ans d'histoire, aujourd'hui le blues.
Et c'était Crossroad Blues, Robert Johnson, un joueur de blues qui aurait vendu son âme au diable à un croisement de route, hein, d'où le titre de cette chanson. Johnson qui jouait, qui était un grand joueur de blues et de guitare. La guitare, c'était l'instrument.
C'est devenu l'instrument
le plus important, Sébastien Danchin.
En réalité, le blues, c'est la voix. C'est la voix de toute une communauté, de la communauté rurale, de ce sud noir. Et puis assez vite, il y a des instruments qui se gravent là-dessus. Bon, ça peut être des cuillères, ça peut être des os qu'on frappe ensemble pour faire du rythme. Et puis l'harmonica, bien sûr, ça coûte pas cher. Et puis, depuis la fin du 19e siècle, la guerre en 1898 entre l'Amérique et l'Espagne à propos de Cuba va ramener une invention formidable en Amérique. À la fois cette guerre et puis l'influence du Mexique, c'est la guitare. Et la guitare est un instrument qui est itinérant et qui fait du bruit et qui permet de se faire entendre. Donc ça devient très vite l'instrument roi.
Et puis la guitare, on l'a entendu dans cet extrait qui date de 37, la guitare que l'on aménage. On avait par exemple inventé le bottleneck.
Oui, alors c'est un système qui est inspiré de la guitare hawaïenne, si vous voulez. On passe un tube de métal ou alors un goulot de bouteille sur les cordes, donc ça fait des glissandos qui sont très évocateurs. Et là, justement, on obtient avec la guitare exactement ce qu'est le blues, c'est-à-dire les inflexions de la voix. D'ailleurs, si vous écoutez tout à l'heure, on écoutait Louis Armstrong avec Bessie Smith, qu'est-ce que c'est que la guitare, la trompette d'Armstrong? C'est ni plus ni moins une recréation de la voix.
Alors, la voix, la musique, un instrument, et puis alors c'est aussi, vous le disiez, des paroles, et des paroles qui scandalisaient parce que les chanteurs de blues avaient une espèce de double langage, un peu d'initié.
Alors, c'est ce qu'on appelle en langue anglaise le double entendre, dans une bonne langue anglaise. Vous voyez qu'on est capable de franglais, ils sont capables également de franglais à rebours. Oui, effectivement, c'est une façon pour eux d'exprimer des choses sans que celui qui enregistre le disque, c'est-à-dire le propriétaire blanc, ne puisse comprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de textes grivois en réalité qui se cachent derrière ça, et puis également il y a énormément de messages qu'on fait passer contre l'oppression, mais l'air de rien.
Alors le blues donc est connu et se répand dans l'ensemble des États-Unis, d'une part parce qu'il y a le disque, parce qu'il y a quelques chanteurs de blues qui sont admis dans les studios de New York ou de Chicago. D'ailleurs, il y a plusieurs capitales du blues, mais surtout les chanteurs de blues, vous le dites, sont des itinérants et ils vont se déplacer à la fin des années 20. Ils vont aller, comme l'ensemble de la communauté noire, du sud vers le nord.
Absolument. À partir de la fin des années 10, il y a un mouvement migratoire considérable. On estime qu'entre 1920 et 1960, ce sont 3 millions de personnes qui ont émigré, ce qui est une immigration considérable. Donc ce sont des gens qui ont été poussés par l'exode rural, aussi par la ségrégation, avec l'espoir de trouver dans une Amérique du Nord qui s'industrialisait, de trouver une vie plus agréable. C'était parfois un leurre, mais en tout cas, c'était la réalité de ce mouvement migratoire.
Et parmi eux, un des grands noms du blues que vous citez souvent dans votre livre, Sébastien Blanchard, il est venu du delta du Mississippi pour s'installer à Détroit, John Lee Hooker, mort en 2001, 2 ans après son passage sur France Inter, au micro de Laurent Lavige.
Je parle de beaucoup, beaucoup de choses qui touchent les gens. Même moi, quand je chante, certaines chansons, c'est tellement triste que je suis triste par mes propres paroles. Quand on chante le blues, il faut qu'il y ait un sens. On ne chante pas le blues comme ça, pour rien. Il faut savoir que des gens ont vécu ça, et que même moi, j'ai vécu une partie de ce que je chante. Peut-être pas maintenant, mais dans le passé. Je suis passé par là. Des déceptions. C'est ça, le blues.
Du blues, en citait beaucoup, Sébastien Danchin, B.B. King, Muddy Waters, Bill Big Bronzy, il y en a des quantités.
Oui, il y a des quantités, et puis bon, en réalité, il y a des quantités de types de blues différents. C'est une musique qui est née dans un univers rural, c'est vrai, mais qui a pu se sophistiquer de manière différente avec le jazz. On a l'habitude de dire que Billie Holiday est une grande chanteuse de blues, et c'est évident, alors qu'elle est catégorisée, si vous voulez, avec les musiciens de jazz. Et puis, à partir du moment où il y a l'émigration dont on a parlé tout à l'heure, cette musique, elle change, elle quitte son berceau natal, elle quitte la région du Delta, elle quitte Memphis, elle quitte le Texas pour aller dans les grandes villes. Elle va à Houston, elle va à Chicago, elle va dans la région de San Francisco, à Saint-Louis, à Los Angeles. Mais curieusement, elle ne va pas vraiment à New York. New York reste la capitale intellectuelle des États-Unis pour les Noirs. Et donc, le blues, c'est quand même une musique de pouilleux et de cutéreux dans l'esprit même de la communauté.
Vous n'avez pas cité les deux grandes villes, d'abord Détroit, d'où était Johnny Walker, et puis alors Chicago.
Oui, alors Chicago qui est le...
Vous connaissez bien.
Alors Chicago est ce berceau du blues plus urbain, parce que c'est, bon, pour des raisons géographiques toutes bêtes, les gens qui quittaient la région du Delta, qui quittaient l'Arkansas, l'Alabama, le Mississippi, remontaient les axes naturels, il y en avait trois, il y avait le fleuve qui était le Mississippi, il y avait le train, et puis il y avait la route, et tout ça menait vers Saint-Louis, et puis après Chicago, qui était la grande métropole, la deuxième ville des États-Unis, et une ville où il y avait quand même beaucoup de possibilités d'emploi, donc c'était une possibilité de s'émanciper de ce sud difficile.
Et puis vous le rappelez, Sébastien Manchin, c'est une musique qui évolue, qui se métamorphose, notamment dans les années 50, elle se transforme avec le rhythm and blues, dont voici un des plus grands succès en 1959. Évidemment, Ray Charles, What I Say, 1959. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est encore du blues, mais on est très loin du St. Louis Blues qu'on a entendu tout à l'heure, et c'est déjà du rock. En fait, c'est pas le rhythm and blues qui est né le rock.
Absolument. D'ailleurs, l'expression rock and roll, c'était une expression qu'on utilisait dans la communauté noire pour appeler la musique moderne des années d'après-guerre. On appelait ça du rhythm and blues ou du rock and roll. On a utilisé l'expression rock and roll avant. Et il se trouve que cette expression qui avait des connotations, elles aussi, sexuelles, très prononcées, a beaucoup plu à une jeunesse blanche en besoin de rébellion, dirons-nous. C'est James Dean, pour caricaturer les choses, et que c'est comme ça qu'ils ont en fait adopté à la fois cette musique et le nom qui allait avec. Et puis, bon,
tous les premiers grands noms du rock and roll viennent du blues, ou se sont inspirés du blues.
C'est
Elvis Presley, par exemple.
Ah, ouais. Ce sont des copies conformes de disques de blues ou de rhythm and blues, absolument. Ouais.
Alors il y a eu Johnny aussi qui chante
toute la musique que j'aime. Il le dit volontiers. Ça, bon, c'est pour ça que le blues est une musique qui va toucher toute la musique populaire vraiment de tout l'Occident.
Mais que devient là-dedans le blues traditionnel, ce qu'on a entendu au début, parce que vous dites que même le rap au fond est un lointain descendant du
c'est
blues.
Même assez direct, parce que le rap, qu'est-ce que c'est l'expression d'une jeunesse très défavorisé dans les ghettos. Donc c'est à peu près l'équivalent de ce qui a pu se passer dans les années 30 ou 40 ou 50. Mais qu'est-ce qui reste du blues? Il reste du blues dans les états ruraux. Il reste pas mal de petits orchestres qui continuent de manière assez amateur à jouer de la musique le samedi soir, et donc on reste dans l'esprit du blues. Et puis il y a dans toute la communauté noire, dans la petite et moyenne bourgeoisie de la communauté noire, surtout dans le sud, ce qu'on appelle des chanteurs pour dames qui continuent à chanter du blues beaucoup plus moderne, mais c'est un blues.
Puis il reste quelques grands survivants de l'aventure du blues.
Alors bien sûr, il y en a un grand qui reste, qui est bien sûr B.B. King, qui celui qu'on considère un peu comme le patriarche du blues, qui a 78 ans ce mois de septembre prochain, et qui reste une figure majeure du blues parce qu'il a beaucoup fait évoluer la grammaire de la guitare dans le blues, et que c'est par son intermédiaire qu'ont pu se développer tous les Eric Clapton, les Rolling Stones et même les Beatles. Donc on voit bien que la richesse de cette filiation.
Bon, ça tombe bien, justement, Sébastien Manchin, je vous propose justement de terminer avec B.B. King, How Blue Can You Get?
Thank you. Thank you, but now we're going way down an alley. Way down an alley. I like to play a little bit.
Je signale que mon invité Sébastien Danchin est l'auteur de 3 livres consacrés au blues, une biographie de B.B. King que l'on entend en ce moment, sortie chez Fayard, le blues, un livre et un CD publié aux éditions du Layeur, et enfin une encyclopédie du rhythm and blues sortie chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits de Oh Brother de Joel et Ethan Cohen, un film distribué par Studio Canal. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry et Pascal Baldassari, Virginie Bloch-Léné, Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.